conférences et débats.
Bien, bonsoir à toutes et à tous, et soyez les bienvenus pour cette rencontre consacrée à l'Algérie. Et bravo d'être là en dépit des frimas, de la pluie et de ce temps inhabituel à Morges, puisque à cette saison, il fait toujours très beau. Mais bon, cette année, on va faire avec la pluie. Je vais commencer par de brèves présentations. Yves Bichet, poète, romancier et dramaturge. Vous avez longtemps été salarié agricole, artisan du bâtiment, avant de vous consacrer à l'écriture. Votre premier roman, La part animale, était paru chez Gallimard en 1994. Il a été adapté au cinéma par Sébastien Jodot. Le Nocher est paru chez Fayard en 2000. La papesse Jeanne, une réédition en un volume de trois romans, La femme Dieu, Cher et Le Papelet, est paru chez Fayard en 2005. L'homme qui marche au Mercure de France en 2014. Et puis votre dernier roman, celui dont nous allons parler ce soir, s'intitule Indocile et il est paru au Mercure de France cette année. Brigitte Giraud, qui est à côté de moi, née en Algérie, à Sidi Bel Abbès, vous avez étudié l'anglais, l'allemand, été libraire, journaliste, traductrice et dirigé de 2009 à 2016 la collection La Forêt aux éditions Stock. Vous écrivez des romans, mais aussi des récits et des nouvelles. À présent, a reçu la mention du prix Wepler en 2001, L'amour est très surestimé, le prix Goncourt de la nouvelle en 2007, Une année étrangère, le prix Giono en 2009. Avoir un corps est paru en 2013, Nous serons des héros en 2015, et tous sont parus chez Stock. Et le dernier dont nous allons parler ce soir s'intitule Un loup pour l'homme. Il est publié chez Flammarion et il vient juste de sortir en cette rentrée littéraire. Alice Zeniter, romancière et dramaturge, vous avez vécu plusieurs années en Hongrie où vous avez enseigné le français et fait également de la mise en scène. Votre deuxième roman, Jusque dans nos bras, est paru en 2010 chez Albin Michel. Il a reçu le prix de la Porte Dorée. Sombre dimanche, également chez Albin Michel, en 2013, le prix de la Closerie des Lilas et le prix du Livre Inter. Juste avant l'oubli est paru aux éditions Flammarion en 2015 et il a reçu le prix Renaudot des lycéens. Et votre dernier roman qui va nous intéresser ce soir s'intitule L'art de perdre chez Flammarion et c'est également une parution de la rentrée littéraire. C'est donc l'Algérie qui vous réunit tous les trois et plus précisément la mémoire de l'Algérie. Parce que vos romans mettent au cœur du récit cette guerre d'Algérie qui a longtemps tué son nom, dont on n'a pas utilisé le terme guerre pour la désigner, et dont la mémoire reste encore extrêmement sensible en France. Alors sa présence dans vos romans s'organise de façon vraiment différente. On va commencer par vous, Yves Bichet, parce que chez vous, en fait, la guerre d'Algérie est comme une sorte d'arrière-plan. Je m'explique, le roman ne se déroule pas du tout en Algérie. C'est un arrière-plan qui a conduit un jeune soldat qui s'appelle Antoine sur le front. Il est rentré en mauvais état puisqu'il est dans le coma dans un hôpital militaire. Et la guerre d'Algérie est une menace pour son ami qui lui rend visite régulièrement et qui s'appelle Théo, dont on va suivre le parcours, qui lui se prépare à partir en Algérie mais qui en fait va refuser d'y aller. Donc le récit ne se déroule pas en Algérie, mais j'ai envie de dire que dans les esprits, l'Algérie est tellement présente et la guerre est tellement présente que c'est une menace constante qui plane sur le roman.
Oui, c'est vrai que c'est un contexte. C'est plutôt un roman d'amour. C'est plutôt quelqu'un qui sort de l'adolescence et puis qui plonge dans les grands vents amoureux qu'on a tous connu plus ou moins à la sortie de l'adolescence, mais ils sont contrariés effectivement par la guerre, la menace de la guerre, puis la menace pour ce jeune garçon de devoir partir à la guerre. Donc elle est omniprésente parce que son ami effectivement est blessé et très mal en point et il va le voir tout le temps à l'hôpital militaire des Genettes à Lyon. Donc il y a l'omniprésence de la guerre, mais il y a l'omniprésence de la révolte et du refus de la guerre. C'est dans ce sens-là, je pense que ce livre est assez différent des deux autres. C'est plus un livre sur le refus de la guerre, sur l'engagement. Il y a une forme d'engagement politique à un moment donné, puisque ce personnage, un peu à son corps défendant, va devenir objecteur de conscience. Il va refuser de partir, ce qui l'emmènera en prison, enfin, etc. Mais il bataille plus avec l'amour et la guerre est là pour l'empêcher d'aimer un peu.
La caractéristique du roman, c'est qu'effectivement la guerre et l'amour se présentent au même moment, qu'il y a une espèce de confrontation des deux événements assez déchirante pour un jeune homme de 18 ans, parce qu'il est très jeune.
Oui, par exemple, on peut dire qu'il y a une bonne partie des adolescents, en tout cas dans le Moyen-Orient, qui, à peine sortis de l'adolescence, découvrent peut-être l'amour, mais ils ont une Kalachnikov dans les mains, ou on le leur propose. Peut-être que j'avais envie de dire que, d'une autre manière, de façon plus institutionnelle, c'est ce qu'ont vécu un certain nombre de jeunes dans les années 60, qui étaient envoyés comme ça, d'un seul coup, à peine sortis de l'adolescence, au casse-pipe pour une guerre qu'ils n'avaient pas envie de faire, qu'un certain nombre de gens ont refusé de faire.
Je disais que le roman ne se déroule pas en Algérie, cependant il y a une scène qui se situe en Algérie, qui est le récit des conditions dans lesquelles le jeune homme qui est donc dans le coma à l'hôpital est mort. Et bien sûr, la version première qui a été donnée de sa mort, c'était le fait qu'il est tombé sous les balles d'un felaga. Et en fait, on découvre que l'histoire est différente. Et du coup, ça vous donne quand même l'occasion de planter une vraie scène qui se déroule en Algérie et qui est une scène de guerre.
Oui, qui est une forme de ruse ou d'imposture. Ça s'est passé, effectivement, les bergers assez régulièrement envoyaient leurs troupeaux de nuit sur les barrières électrifiées qui étaient là pour empêcher à la frontière entre, en l'occurrence, l'Algérie et la Tunisie. Donc il y avait une frontière électrifiée et certains bergers avaient des techniques qu'ils envoyaient avec des chiens et les brebis fonçaient, se percutaient la clôture électrique et du coup coupaient, enfin, il y en avait un certain nombre qui mouraient empalés et puis ça immobilisait la frontière et pendant ce temps c'était utilisé pour pouvoir passer la frontière. Et d'abord je trouve assez, il faut quand même penser à balancer des moutons sur une frontière électrifiée pour la faire péter. Et en général, les moutons, il y en avait deux ou trois qui s'empalaient, mais pas plus. Les autres, ils comprenaient vite que... Bref, donc j'ai mis en scène cette histoire-là, et c'est lors de la réparation de cette frontière électrique que l'ami de Théodore va être victime d'une mauvaise manipulation technique pure d'un de ses collègues. Enfin, il n'est pas du tout victime des félagas. Mais c'est la version qui est donnée, la version officielle.
Parce qu'il refuse de partir en Algérie, votre personnage Théo va vivre toute une série d'épisodes et de péripéties liées à la tentative d'exfiltration vers la Suisse, en l'occurrence, puisqu'il y avait des réseaux qui étaient organisés pour permettre aux insoumis de quitter le territoire français. Et puis après, il y a toute une sorte de filature entre la Suisse, Lyon, etc., où là, on voit quand même la guerre d'Algérie par les attentats, par les guet-apens. Enfin, il y a quand même la présence de ce qui fait résonance avec cette guerre sur le territoire français.
Oui, mais un peu à son corps défendant. Théo, il ne veut pas aller faire la guerre. Et il passe en Suisse parce qu'il y a une filière qui permet d'exfiltrer les insoumis. À l'époque, ils allaient directement en prison. Hein, c'était... et puis, ou pire que ça éventuellement, enfin on a vu ça dans la Première Guerre mondiale, c'est assez connu. Donc il y avait un vrai risque, il passe en Suisse, et puis c'est lors de son passage en Suisse qu'il se rend compte que le passeur était connecté avec l'amour, enfin avec la personne qu'il aime. Et du coup il va suivre, il va pas passer en Suisse dans un premier temps, il va suivre ce personnage, ce passeur, et avec l'idée de retrouver, c'est un roman d'amour essentiellement, c'est un roman vrillé autour de l'amour, et donc il essaye de retrouver Mila, et du coup il va tomber effectivement sur les porteurs de valises, enfin sur tous ces gens qui en France aidaient ou étaient du FLN à cette époque, une période où ça explosait de partout, en France aussi. Donc il y a ce contexte, effectivement, la guerre est présente du côté en France par les attentats, par mais lui, il est un peu spectateur, il est actif dans son refus de, mais c'est pas un poseur de bombes non plus.
Bien, ben, je propose qu'on continue de présenter les autres romans, puis après, bien sûr, on reviendra à une conversation un peu plus générale. Alors, Brigitte Giraud, ben, chez vous, la guerre d'Algérie, c'est une présence non pas lointaine, c'est pas du tout un arrière-plan. Elle est présente dès les premières lignes de votre livre, et c'est un pays de mémoire intime, dont on se dit, quand on vous lit depuis quelques années, que voilà, on sait qu'à un moment ou un autre, elle va entrer en scène dans un roman, donc c'est maintenant, c'est ce roman-là. Non seulement c'est pas un arrière-plan, mais tout de suite et dès les premières pages, l'Algérie, pour votre personnage qui s'appelle Antoine, a une réalité très physique. C'est-à-dire que le corps qui est très présent dans le roman est tout de suite mis en scène, c'est-à-dire qu'il arrive très tôt en Algérie et la première sensation qu'il a, c'est le sable qui lui entre dans la bouche et voilà, qui l'envahit. Donc voilà, l'Algérie, elle a une présence tout de suite, avant même qu'on assiste aux premières scènes de guerre, elle est là.
Bonjour à tous. Ben oui, cette approche qui est, en fait, c'est l'histoire de mon père. Hein, il a imaginé un certain temps qu'il pourrait échapper, en effet, à cet appel, avec deux réformes successives, parce qu'il était trop fragile, parce qu'il était trop maigre, parce qu'il était peut-être pas un homme comme on imagine que sont, que doivent être les hommes. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le rapport aux hommes et au masculin. Et puis il a fini par être appelé et à se retrouver dans effectivement en Algérie, qui arrive en effet dans son corps. Mais avant de partir, pendant ses classes, il a compris quelque chose de d'impérieux. Il n'a pas été indocile au sens du Antoine d'Yves Bichet.
C'est vrai qu'il porte le même prénom, c'est troublant. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes personnages.
Mais il a demandé de ne pas tenir une arme et de faire une formation d'infirmier. Et une fois arrivé en Algérie, il ne savait pas où il allait être affecté. Il a été affecté, c'était comme une chance, dans un hôpital militaire. Et là, en effet, le corps, évidemment, est en scène, son propre corps. Les corps des jeunes gens qui arrivaient à 20 ans étaient d'abord tondus, étaient ensuite livrés à la chaleur extrême, étaient livrés aux punaises dans la chambrée, étaient livrés aux cuites qu'ils prenaient ensemble avec les autres pour supporter, étaient livrés aux parfums nouveaux, à la nourriture nouvelle, à toutes ces sensations qui passent par le corps. Et puis évidemment, à l'intérieur d'un hôpital militaire, le corps est très présent, et surtout les corps des autres garçons qui, eux, ont été blessés. Donc il est au contact très vite de ces autres corps, et c'est par l'intermédiaire de ces corps vulnérables, fragiles, qu'il va comprendre ce qui a pu se passer sur le terrain.
Au moment où Antoine part en Algérie, sa femme est enceinte, et il y a une question qui est posée dans le roman, que Antoine se pose, parce que cette guerre, il la refuse fondamentalement, il ne veut pas la vivre, et il se pose la question de savoir, la vraie aventure, est-ce que c'est de faire un enfant ou est-ce que c'est de faire la guerre? Et c'est un peu un des fils, en fait, qui tire le roman.
Oui, en fait, c'est un roman qui met en scène, comme je le disais, le masculin en situation dans un pays en guerre, l'Algérie, mais c'est un roman dans lequel le féminin entre très vite, puisque la femme d'Antoine, Lila, qui était ma mère, le rejoint d'une façon totalement, dans les années 60, une façon totalement inattendue, libre, émancipée, passionnée, amoureuse, aimante, enfin tout ce qu'on veut, et enceinte. Ce qui veut dire que ce Antoine doit compter avec une donnée qu'il n'avait pas du tout envisagée. c'est la présence de sa femme sur place. Et c'est vrai que pour un homme qui évolue au quotidien avec, même si dans un hôpital militaire, il y a le lien aux armes, il y a le lien aux gradés, là, il y a le lien aux attentats, aux combats, aux campagnes de vaccination dans les villages. Enfin, il y a un lien vraiment au terrain très fort et au danger et à la peur et à l'inquiétude très 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 forte. Il y a sa femme qui débarque et qui loue un petit studio dans la petite ville de Sidi Bel Abbès, ville où je suis née. Et ça veut dire que lui, tous les soirs, au bout d'un moment, au lieu d'être avec les copains de la chambrée, de partager leurs peurs, leurs espoirs et leurs ennuis et d'attendre le courrier qui vient ou qui ne vient pas de France, lui, il rentre chez sa femme. Donc c'est une donnée très particulière parce que ça veut dire qu'il va devoir composer avec cet entre-deux. Il a d'un côté l'amour, un enfant à venir, l'idée de quelque chose qui le tire vers la vie, puis là de l'autre côté les soldats qui sont blessés et avec qui il va apprendre dont il va apprendre à prendre soin. Donc on est entre la vie et la mort et ce va-et-vient qui est assez étonnant dans une guerre, parce que le féminin au milieu, moi je peux pas m'empêcher de me dire que c'est finalement assez encombrant, c'est-à-dire que d'un côté c'est consolant et de l'autre côté ça oblige à se dépasser en permanence, parce qu'il voulait aussi lui cacher ce qui se passait réellement. Voilà, donc c'est un drôle de, d'aller-retour.
Mais c'est toi qui étais dans le ventre ?
Oui.
Parce que j'ai lu le livre, mais je ne savais pas ça du tout.
Ah oui, c'est ça. Parce qu'il est infirmier, Antoine voit des corps jeunes, sains, vigoureux, qui sont amputés, qui sont définitivement meurtris.
Pour certains, mais
pour beaucoup. Il y a cette notion du soin, vous avez employé le terme de soin, qui est vraiment très très importante dans le roman, parce qu'en fait, il va apprendre, grâce à un des personnages qui est amputé, et dont il va énormément s'occuper, dont on se dit même qu'il donne un sens à sa présence dans ce pays, il va apprendre à soigner. Et ça, c'est une dimension importante dans le roman aussi.
Mais oui, parce que en fait, c'est l'histoire aussi d'une révélation. Tout à coup, il se rend compte, et c'est finalement par le biais de l'armée et par le biais d'une guerre, ce qui est quand même le comble, que sa véritable place, sa véritable nature, c'est de prendre soin, c'est de réparer, c'est d'accompagner, c'est de consoler, c'est d'être celui qui va essayer de faire en sorte que ce qui est arrivé à ces jeunes garçons blessés soit malgré tout supportable. Donc il va entrer en contact très vite avec un jeune homme qui s'appelle Oscar, qui a perdu une jambe, et on comprendra plus tard ce qui lui est arrivé et pourquoi et de quelle façon ça lui est arrivé. Et ce jeune homme est aphasique, il ne parle plus. Et donc la mission d'Antoine, la mission que lui fixe le capitaine, mais qu'il se fixe lui-même, c'est de l'aider à retrouver la parole pour qu'il puisse enfin raconter, puis l'aider aussi à tenir à nouveau debout. Donc c'est une mission, qu'il n'y a pas plus noble mission que d'aider un autre être humain à réparer ce qui a pu le meurtrir, le blesser et l'handicaper dans tous les sens du terme. Et au bout d'un moment, ce qui est assez étonnant et ce que Antoine n'imagine pas, c'est que c'est finalement, on ne sait plus qui va aider l'autre, c'est que c'est finalement grâce à Oscar qu'Antoine va comprendre que sa présence a un sens qu'il n'avait pas du tout imaginé avant de partir.
La guerre à laquelle participe Antoine, à laquelle le personnage de Yves Bichet n'a pas voulu participer, très tôt, très vite, on le sait et Antoine le comprend, c'est une guerre perdue d'avance, sauf qu'à ce moment précis où il se trouve en Algérie, là on est encore en 1960, personne ne l'avoue encore, c'est-à-dire on ne peut pas le dire, personne ne peut le formuler.
Non, il ne le sait pas encore et personne, parmi les appelés en tout cas, ne le savent, ou parmi la population. 1960, c'est l'année de la bascule, hein. C'est le moment où De Gaulle commence à laisser entendre et où l'armée française commence à comprendre que le gouvernement français va finalement accepter de dire, oui, de rendre public le fait qu'il va se ranger, enfin, il va finir par lâcher et aller du côté de l'Algérie algérienne. Donc c'est vraiment une année qui est charnière. Et ce que j'ai voulu faire, et ce qui m'a vraiment intéressée dans la façon de construire et d'écrire ce livre, c'est d'être vraiment à sa hauteur. C'est-à-dire, on est comme lui au début, on ne sait rien. Mon père m'a dit ça, il m'a dit, mais au début, on ne nous avait rien dit. On nous avait simplement dit, il y a une révolte à l'œuvre parmi les indigènes. Il va, voilà, les appelés sont là pour faire en sorte que cette révolte ne prenne pas, ne s'empare pas de l'ensemble du pays. Donc vous allez, selon cette expression consacrée qu'on connaît tous par cœur maintenant, maintenir l'ordre. Voilà. Et puis petit à petit, donc ils imaginent que c'est quasiment presque des vacances, hein, dans un pays exotique, dans un climat particulier, au bord de la Méditerranée. Au début, ils en sont presque à imaginer cela, qu'ils vont aller se baigner et pêcher, etc., et manger des oursins, ce qui n'est pas faux, ce qui peut se faire en même temps. Et puis petit à petit, ils vont comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a des rumeurs, parce qu'ils entendent des choses dans les couloirs de l'hôpital, parce que les blessés racontent des choses, parce que les lettres qui viennent de France racontent encore autre chose, parce qu'ils chopent de temps en temps des phrases parmi les venues des dégradés, parce qu'il y a aussi une radio qui est là, et en recoupant toutes ces... Et ça m'a vraiment intéressée, parce que c'est vraiment le travail du romancier qui est passionnant à partir de ce moment, c'est-à-dire comment on entend et on recoupe toutes ces informations, quelles sont celles qu'on accepte de reconnaître et d'entendre comme étant les véritables informations, tout en sachant qu'il y avait en même temps une désinformation, une manipulation à l'œuvre. Donc c'était très difficile de savoir où ils en étaient. Et donc ça m'a vraiment intéressée, moi, de d'écrire et d'avancer de cette façon. Et petit à petit, et puis il est vraiment sur le terrain, puisqu'il vit dans la ville de Sidi Bel Abbès, et il parcourt cette distance tous les matins entre le studio et l'hôpital, en uniforme, puisqu'ils étaient obligés de garder l'uniforme, donc ils étaient aussi des proies relativement faciles. L'épicier qui lui raconte certaines choses, le stade de foot où il entend aussi d'autres choses, la présence des petits noirs, la présence des harkis dans la cour de l'hôpital. Enfin, il y a toutes ces rumeurs qui grondent de plus en plus, et puis les attentats qui sont là de temps en temps. Voilà, pour qu'il puisse arriver à comprendre que la chose politique est quelque chose qui va venir, qui ont été manipulés, tout simplement.
On va y revenir, mais je voudrais qu'on présente le roman d'Alice Zeniter. Alors chez vous, bien sûr, la guerre d'Algérie est également présente, mais pas seulement, parce que la question de la mémoire par rapport à l'Algérie se déploie sur 3 générations. Donc en termes historiques, il y a bien sûr un spectre beaucoup plus large. Dans le prologue, le personnage de Naïma est introduite. Naïma, elle est traversée par une détresse dont vous dites qu'elle a la taille d'un pays manquant. En fait, la question principale qui est posée à travers le personnage de Naïma et toute l'histoire de sa famille que vous restituez, c'est la question de savoir si une jeune femme née en France comme elle peut avoir une histoire avec un pays dont sa famille a systématiquement tué. Précisément le récit. Donc c'est la question du lien qu'on peut avoir avec un lieu dont on ne nous a jamais rien dit. Voilà. Et pour élucider cette question, vous faites le récit des grands-parents, des parents, avant d'arriver à celle qui va retisser finalement l'histoire familiale.
Oui, Naïma n'a pas, c'est pas elle dont elle dit sa détresse à la taille d'un pays manquant. Elle parle de son oncle, qui a lors d'un repas de famille les a agressés, elle, ses sœurs et ses cousines, en les traitant de putes, en disant qu'elles ont oublié d'où elles viennent. Donc par là, il fait référence à ce qu'il considère être leur manque de décence. C'est des jeunes femmes qui fument, qui portent des pantalons, qui partent toutes seules vivre en ville en disant qu'elles vont faire des études. Et Naïma se demande comment cet oncle, qui lui est aussi né en France, à quel moment il a décidé que son malheur avait la taille d'un pays manquant, d'une religion perdue, d'une langue qu'il ne connaît pas. Et qu'est-ce qui fait que pour cet oncle Mohamed, il est évident que le le problème de cette famille, c'est le lien avec l'Algérie. Parce que Naïma, quand le livre commence, c'est une jeune française parisienne qui travaille dans une galerie d'art, qui vit sa vie avec ses amis, avec son amant qui est aussi son patron. Qui a des grands moments de faille et de désespoir, généralement causés par la gueule de bois. Mais Naïma, elle, ne le rattacherait absolument pas au pays perdu. Ce qui va faire qu'elle va commencer à s'intéresser à l'Algérie, c'est que dans le cadre d'une exposition qu'organise la galerie, il y a une rétrospective qui est organisée sur le travail d'un vieux peintre algérien qui s'appelle Lala, et on envoie Naïma, son patron, et envoie Naïma rechercher les dessins et les encres qui sont restés de l'autre côté de la Méditerranée. Et il fait ça comme si c'était un cadeau pour elle, comme s'il lui rendait son pays et comme si elle devait lui être redevable de ça. Et pour Naïma, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est-à-dire elle se dit, mais aujourd'hui en France, je suis en permanence renvoyée à ça. C'est-à-dire, quand il se passe un attentat et qu'on commence à débattre de l'islam, on se tourne vers moi en disant, mais toi, toi qui as un prénom arabe, toi qui es bronzé, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Ben, j'en sais rien, je suis pas musulmane. Oui, mais t'es algérienne. Non, je suis pas algérienne, en fait. Et pourquoi t'es pas algérienne? Ben, parce que mon grand-père était harki, donc en fait, il est né français, il est resté français. Là, elle sait qu'il y a quelque chose d'un petit peu flou dans l'histoire, mais et puis voilà. Et puis quand quelqu'un lui dit, on va exposer un peintre algérien, c'est merveilleux, je te renvoie à tes racines. Et elle sent une injonction comme ça permanente dans la société qui l'empêche d'être juste Naïma et qui pose cette équation qui est dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Et elle a très bien vécu sans. Et d'ailleurs, elle décide au moment où on lui dit mais tu vas aller en Algérie rechercher les dessins de Lala, sa première réaction c'est non. Non, j'irai pas. C'est un pays qui a cessé d'exister pour ma famille en 62. Je vois pas pourquoi moi, 60 ans plus tard, j'irai le faire sortir du silence. Et en même temps, il y a une telle insistance sur le fait que ce voyage serait important. Elle commence aussi à se dire que ces 60 ans de silence sont étonnants. Et elle va finir par le faire, mais toujours à contre-cœur, en se disant toujours que c'est quand même absurde et raciste qu'elle soit obligée d'avoir un avis sur l'Algérie pour réussir à vivre.
On comprend d'ailleurs d'autant mieux la dimension un peu vertigineuse de cette question du renvoi systématique aux origines quand on voit, c'est la première partie du roman, la Kabylie, d'où vient donc la famille. C'est une crête de montagne sur laquelle sont nés donc les grands-parents et puis également le père de Naïma. Et c'est vraiment une terre de tradition millénaire qui n'a pratiquement pas bougé. D'ailleurs, vous dites à un moment que en fait, c'est un lieu de l'Algérie dont l'histoire ressemble davantage à un conte. Et d'ailleurs, sur la question de l'histoire de l'Algérie, personne ne s'accorde jamais sur quand a commencé l'Algérie, parce que chacun a sa version des débuts, en fait. Donc c'est très intéressant, parce que ça nous fait vraiment replonger sur la question des origines de ce pays, en même temps que sur celle de l'origine de cette famille.
Oui, et c'est là, je pense aussi que ça rejoint ce que disait Brigitte sur la question de la propagande et de qu'est-ce qu'on fait des informations et de c'est-à-dire le FLN au moment des accords d'Évian a tenu à faire préciser que l'Algérie recouvrait son indépendance comme si avant cette indépendance, il y avait déjà eu une indépendance de l'Algérie unifiée, alors que l'Algérie avait, avant l'invasion par les Turcs, en fait, était un amas disparate de tribus, de clans, de régions qui n'avaient rien à voir, dans des reliefs qui empêchaient aussi, en fait, que les différents occupants puissent communiquer de manière très facile. Et quand on regarde la guerre d'Algérie aujourd'hui, dans les livres d'histoire français, on a l'impression aussi qu'en fait, pour les Algériens, c'était très très clair que eux, ils allaient faire leur révolte, qui allait devenir une révolution, qui allait devenir l'indépendance, et que c'était évident pour tout le monde, et que c'est les Français qui se sont obstinés à ne pas le voir, etc. Alors que ce que moi j'essaye de montrer, c'est que c'était absolument pas évident du côté des indigènes non plus. Du haut de la montagne, Ali et sa famille, ils n'ont pas du tout, déjà ils sont pas éduqués, ils sont pas politisés, ils vont pas à ces discussions dans les cafés où on commence à rêver d'une indépendance du pays. C'est des gens qui sont voilà, gouvernés par une manière de penser le monde qui est un peu celle des contes, qui est aussi celle du Mektoub, où on s'imagine que le futur ne s'écrit pas mais qu'en fait il se dévoile. Et donc leur manière de vivre les choses. Et aussi Ali a combattu pendant la Seconde Guerre, et sa vision sur une guerre franco-algérienne, c'est que clairement les Français ont une puissance de feu que les Algériens n'ont pas, d'autant plus quand ils regardent ça du haut de sa montagne, où son pressoir à olives est considéré comme la grande modernité du lieu et de l'époque, où il se dit mais moi j'ai vu des machines de guerre, j'ai vu des tanks, j'ai vu des mitraillettes, on va arriver quoi, enfin on va faire quoi, on va les bombarder avec des figues et des olives. Le FLN c'est des branleurs en fait, il se dit mais c'est absolument impossible. Et il y a aussi cette chose de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait des informations qui nous parviennent, comment on fait pour lutter contre la propagande, et qui a raison quand les gens défilent sans cesse, quand dans la même année vous avez le caïd du village qui vient en vous disant il faut aider les Français sinon on va se faire écraser, brûler, etc. L'armée française qui vient en disant en effet vous allez vous en prendre vraiment plein la gueule si vous essayez de vous rebeller, et le FLN qui arrive en disant on n'est pas tout à fait prêt. Mais quand même, on vous promet le paradis. À qui on fait confiance? Comment on se construit sa vision de l'Algérie? Et que veut dire le futur? Eh ben, c'est des questions qui ont des réponses totalement différentes pour tous les gens qui entourent Ali dans la première partie du roman, et qui, des années plus tard, trouveront des réponses différentes pour Naïma aussi, parce qu'elle est incapable de se mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a pas ses outils de pensée. Pour Naïma, qui est éduquée, qui a été élevée par des parents hippies et maoïstes, c'est impossible de ne pas réussir à penser le monde politiquement. Le choix de son grand-père, elle est persuadée qu'il a été conscient, et s'il a été conscient, alors son grand-père est un traître. Mais les parties, voilà, du coup, se répondent, se démontent et s'approfondissent entre elles.
Mais parce que le grand-père Ali, effectivement, en 1954, lorsqu'il entend parler du FLN pour la première fois, n'y croit pas, et parce qu'il est convaincu que l'Algérie restera toujours française, il se retrouve du mauvais côté, qui fait qu'en 62, la famille est obligée de partir. Et là, c'est la deuxième partie du roman, là on assiste à tout ce qui a été la descente aux enfers pour cette partie-là des Algériens, qui n'y avait pas cru, souvent par manque d'informations. Et là, c'est le camp de Rivesaltes et d'autres, avant d'arriver dans un HLM en Normandie, avec la famille de 10 enfants. Là, on a vraiment tout ce fil qui conduit jusqu'à Naïma, précisément, cette jeune femme très moderne qui est là, totalement une autre histoire. Mais on voit toutes les étapes parcourues par la famille. Et ce passage par les camps, qui a été absolument terrible. Et là, vous en faites une peinture qui est très documentée. On sait que ça a été l'horreur.
Oui, et en même temps, on le sait pas assez. On le sait pas assez, c'est-à-dire, bon, je pense que, enfin, j'ai depuis des années, je pense à écrire cette histoire, et en même temps, je me disais, peut-être que je l'écrirai plus tard, peut-être que je l'écrirai très tard, dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas. Et ça a commencé vraiment à me démanger quand on a vu aujourd'hui la France confrontée à l'arrivée massive de migrants, et parler de notre belle tradition d'accueil, et qu'en même temps là c'était, que évidemment la France était un pays d'accueil, mais que là c'était le nombre qui faisait que c'était pas possible, etc. Et je me suis dit, mais un pays d'accueil, c'est vraiment très amusant, parce que j'ai pas l'impression. Quand les Harkis sont arrivés en France, déjà ils sont arrivés contre les ordres gouvernementaux, c'est-à-dire qu'on a interdit aux officiers militaires français de réapatrier leurs hommes indigènes. Donc ils l'ont fait par la bande, clandestinement, grâce à quelques hommes qui ont accepté de désobéir aux ordres ou grâce à des contacts qu'ils avaient auparavant. Bon, comme ils étaient là, il a bien fallu faire quelque chose. Donc on a créé des camps de transit et de reclassement provisoire qui, pour certains, sont restés debout jusque dans les années 90. Donc on a maintenu ces gens dans des zones de non-droit, de non-existence, totalement coupées du reste du pays, en attendant je sais pas quoi, de savoir quoi en faire, ou en espérant peut-être qu'ils s'éteignent tout seuls. Et donc la vie en France de la famille d'Ali, elle commence comme ça. Et ce que j'interroge dans cette deuxième partie qui s'appelle la France froide, c'est aussi qu'est-ce que c'est l'immigration et qu'est-ce que c'est l'intégration. Quand on entend aujourd'hui des gens qui disent, en fait, les immigrés doivent s'intégrer, d'accord, mais quand on vit dans un camp coupé du reste du pays, on s'intègre comment? Quand on va dans des classes qui ne sont pas celles de l'école parce qu'on a peur d'envoyer des petits sauvages se mêler aux Français et donc on leur fait l'école dans le camp, comment est-ce qu'on espère qu'ils s'intègrent? Quand, lorsque on décide que c'est bon, ils peuvent sortir du camp, on les met dans des cités HLM qui du coup sont estampillées ghettos, qui sont estampillées dangereuses, où on sait que les enfants des autres ne viendront jamais. C'est ça que dit Hamid, en fait. Il dit mais j'ai jamais eu un seul copain de l'école dont que ses parents auraient laissé venir jouer au Pont-Ferron. Donc il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un échange qui ne se fait pas. Quand on sait que la langue est quelque chose qui s'apprend aussi extrêmement difficilement, et que ceux qui sont arrivés vieux n'auront jamais la possibilité de la maîtriser, cette langue. Après, on a un petit peu, enfin, c'est un petit peu facile quand on dit oui, il y a un travail d'intégration qui s'est pas fait. Un travail d'intégration, en fait, ça se fait sur 30, 40 ans, et c'est un temps long, et c'est ridicule de demander qu'on le fasse en 6 mois.
Mais il me semble, et là, c'est vraiment, vraiment tout l'intérêt de vos trois romans, que pour répondre à cette question que vous posez, qu'est-ce que c'est que l'immigration et qu'est-ce que c'est que l'intégration, il faudrait d'abord pouvoir commencer à répondre à la question qu'est-ce que ça a été que cette guerre d'Algérie. Et au fond, il y a quelque chose qui ressort probablement dans vos trois romans, en tout cas c'est une question que pose votre personnage, Brigitte Giraud. À un moment, vous dites que le soir, il n'est même pas capable de parler à Lila de ce qu'il vit et de la guerre. Et vous dites que au fond, personne n'a jamais écrit la vérité dans les lettres qu'on envoyait depuis l'Algérie, que les soldats envoyaient depuis l'Algérie. Et vous dites que c'est à la fois pour s'épargner soi-même qu'on ne le dit pas, mais aussi parce que personne ne veut entendre. Voilà. Et que cette guerre, qui ne s'est pas appelée guerre pendant très longtemps, parce qu'on ne prononçait même pas ce mot, personne ne voulait en entendre parler, en fait.
Non, puis il faut se rappeler aussi que la guerre d'Algérie arrive 10 ans, à peine 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même vraiment un temps très court. Et c'est vrai que la France n'avait pas spécialement envie de repartir dans une atmosphère de guerre. Donc il y a eu une espèce de déni de tous les côtés, on peut peut-être dire la chose comme ça. Et puis il y a un phénomène qui est instinctif chez l'être humain, c'est-à-dire que le soldat qui part au front, là il n'y avait pas de front, on était sur quelque chose de différent, mais même le soldat qui part au front, ou simplement l'enfant qui part dans un pays étranger, même sans parler d'état de guerre, ce qu'il veut faire, il ne veut jamais alerter, il ne veut jamais inquiéter sa famille, il ne veut pas inquiéter les siens, donc il fait croire qu'il va bien. Donc là, les appelés évidemment étaient les champions du mensonge, mais ce n'était pas des mensonges, c'était du mensonge par omission. Parce que écrire des mots terribles, c'est les faire exister, c'est faire exister les situations terribles. Et comme les mots n'étaient jamais posés, ils ne pouvaient pas trouver les mots qui pouvaient convenir, tout en sachant que leur père, qui eux, dans le cas d'Antoine, son père, on voit bien comment son père, lui, a été blessé pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment il a vécu en tant que prisonnier, comment il a traversé la Loire sans savoir nager avec les Allemands aux trousses, il y a tout ça aussi qui est en œuvre, et donc il a en mémoire ce qu'a subi son propre père, tout à coup il le comprend, il se rend compte qu'il n'a pas voulu lui-même écouter son père, et là il comprend, il se rend compte de cette chose terrible, et à son tour il ne se sent pas autorisé à se plaindre ou à livrer une quelconque inquiétude, ce qui veut dire que ils font croire qu'il fait beau, que voilà, ils vont pas livrer cette détresse. Et puis, il y a aussi, je parlais de manipulation tout à l'heure, et c'est ce que tu disais aussi, Alice, c'est que sur le terrain, par exemple, les infirmiers qui travaillaient sur place, ils étaient envoyés dans des campagnes pour vacciner et pour soigner la population indigène. Donc ils pensaient au départ que c'était une belle action, et c'était en effet malgré tout une belle action. Ils partaient dans des convois accompagnés par la Légion pour pas sauter éventuellement sur des mines. Ils arrivaient dans des douars ou dans des montagnes reculées, et puis ils trouvaient une population en très mauvais état sanitaire, qui souffrait parfois de tuberculose, de syphilis, de toutes ces choses tout à fait terribles qui étaient loin d'être éradiquées en Algérie à cette époque, en tout cas pour la population indigène, et ils faisaient des campagnes de vaccination et des campagnes de soins. Donc dit comme ça, c'est plutôt très beau, mais quand ils ont fini par comprendre au bout d'un certain temps que ces campagnes, donc ils pouvaient écrire à leurs parents ou à leurs proches ou pour certains à leurs fiancés ou à leurs grands frères, on va vacciner, donc c'est plutôt comme si c'était des petits héros en fait, d'aller faire le bien. Mais quand, une fois qu'ils ont compris, mais très longtemps après, sur place ou une fois rentrés, que ces campagnes de vaccination c'était pour faire en sorte que la population algérienne reste acquise à la cause française et n'aille pas s'allier avec les félagas, là tout à coup on se rend compte que la vaccination sur place n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a toujours un décalage, ce qui fait que le personnage, et donc l'armée française, savait très bien comment justement elle ne donnait aucune info, ce qui fait qu'on ne peut pas raconter en temps réel parce qu'il y a un décalage avec le temps. Et ils ont eu l'impression après coup de s'être fait trahir, d'avoir trahi, d'être malgré eux des lâches ou des salauds, ou en tout cas des témoins, ne serait-ce que le mot témoin. Ils se sont rendu compte qu'ils ont vu tout un tas de choses qu'ils n'étaient pas prêtes de voir et encore moins de comprendre. Et c'est après coup, c'est pour ça que le silence est attaché à ces moments-là.
Moi, je trouve vraiment intéressant que ce soit le roman qui prenne en charge cette mémoire de la guerre d'Algérie. Vos trois romans le font, alors qu'on sait que l'histoire, les historiens ont mis si longtemps à pouvoir l'écrire, et aujourd'hui encore, même les grands spécialistes de la guerre d'Algérie le disent, ça reste une mémoire extrêmement sensible, délicate et compliquée. Au fond, en vous lisant, je me disais que le roman a beaucoup d'atouts, finalement, pour nous rendre tout ça sensible. Voilà. Je pense qu'il peut se permettre des tas de choses que peut-être les historiens ne peuvent pas faire. En tout cas, de nous faire toucher du doigt des réalités humaines très, voilà, très fines, très délicates, que les historiens ne peuvent pas prendre en compte.
Mais parce que je crois justement que le roman propose au lecteur d'accompagner les personnages dans une expérience sensible, en lui disant ce livre n'a pas vocation à établir une vérité qui serait la seule vérité existante sur la guerre d'Algérie, puisque comme justement les Algéries, les expériences de l'Algérie sont multiples, moi j'ai l'impression que justement les gens se cabrent devant le discours historique en se disant ça n'est pas ça que j'ai vécu, et ça on le voit évidemment pour les pieds noirs, pour ceux qui avaient un attachement réel au pays, qui ont eu l'impression d'avoir perdu ce pays, qui avaient l'impression aussi de vivre en très bons termes avec leurs voisins indigènes, de lire une version de l'histoire où on les établit comme colons. Voilà, il y a quelque chose en eux qui se bloque totalement. C'est la même chose pour les anciens supplétifs, où quand on dit bon ben voilà, en gros c'est ceux qui ont pris le parti de la France, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est une succession de hasards, de malchance ou de canon contre la tempe, alors que dans un roman, on ne dit pas voilà ce qui s'est passé pour tel groupe de personnes. On peut fragmenter et dire, alors oui, peut-être que cette expérience, ça n'est pas la vôtre, mais en même temps, moi, je dis qu'elle appartient à Ali, à Antoine, et donc si ça n'est pas la vôtre, elle n'a pas vocation à la remplacer. Et à la faire disparaître. Elles peuvent coexister. Votre expérience, celle de mon personnage, peuvent coexister. Et donc, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus doux et d'apaisé que le rapport à l'histoire.
Yves, peut-être, Michel, sur cette question.
Ouais, j'ai envie de dire deux choses. J'ai envie de dire un petit truc sur Alice, sur les réfugiés, parce que j'ai l'impression actuellement qu'il y a une grosse différence entre la ville et la campagne. Parce que moi, j'habite à la campagne, je m'occupe de réfugiés et je suis entouré de réfugiés qui arrivent dans tous les sens et qui arrivent de camps, hein, qui ont passé un an, deux ans, trois ans dans des camps avec des enfants. Et j'ai le sentiment que ce dont on parle, ben c'est une parenthèse, mais ce dont on parle beaucoup dans les médias concerne essentiellement les villes et les concentrations de réfugiés, qu'on est dans un pays qui est en train de réagir. En tout cas, pour m'en occuper, je peux vous citer je ne sais combien d'exemples très précis de... Bon, ça c'était la petite parenthèse optimiste sur peut-être la différence entre la ville et la campagne. En ce qui concerne, moi j'ai fait un roman qui parle de qu'est-ce qu'on fait de l'amour, de l'amour naissant, des vents amoureux quand la guerre est là, quand la guerre est devant notre gueule, quoi. Donc c'est l'essentiel de ce livre, plus qu'une analyse que je ne me sens pas d'ailleurs compétent pour faire. Hein, je me sens compétent pour parler peut-être du refus de la guerre, parce que je suis moi-même objecteur de conscience, j'ai lutté contre l'idée de partir à la guerre sous n'importe quel ordre, donc je remets ça en situation. J'entends bien, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que le roman permet des focalisations lumineuses particulières et donc complexes et compatibles les unes avec les autres et sans qu'on soit dans la théorie. Donc c'est pas lassant, c'est juste une forme d'illustration ou d'incarnation d'une situation. C'est vrai que nos trois livres de ce point de vue-là sont s'épaulent, enfin s'aident, quoi.
Oui, et puis ils ont également une autre dimension commune, me semble-t-il, c'est que ce sont trois romans qui traitent aussi de la liberté d'être soi-même, au-delà des injonctions, que ce soit des injonctions familiales, sociales, politiques, etc. Il y a aussi cette dimension-là, les choix que l'on fait, de pas porter les armes, de s'insurger, d'être soi indépendamment des injonctions que l'on nous fait. Ça vous est commun. Vos personnages ont ça, me semble-t-il, en partage. Ce sont des gens qui réfléchissent au sens à donner à leur vie, dans des circonstances qui sont particulières, des circonstances historiques un peu particulières. Non ?
Ça, c'est une phrase définitive.
Non, pas définitive. Moi, je vous demande. Il me semble qu'il y a ça entre vous. Mais maintenant, à vous de me dire si c'est juste.
Vas-y, quand est-ce qu'on frôle les grands sujets et quand est-ce qu'on les aborde ? Enfin, c'est une problème. Dès qu'on se lance dans l'écriture, il me semble, dès qu'on se lance dans l'écriture d'un roman, on a envie de dire des choses importantes et définitives, et puis on en a très peur parce qu'il n'y a pas de choses importantes et définitives. Donc ce sont nos personnages qui nous emmènent, qui nous guident, ou alors l'histoire, parce que là, effectivement, quand on regarde les Harkis, c'est pas du tout la même situation intime. C'est l'intime, au fond. Peut-être que c'est juste l'intime qui est intéressant. Non ?
Après, la question des choix, elle se pose à différents niveaux. Le choix, par exemple, pour une femme qui voit l'homme qu'elle aime arraché à elle, il peut être en effet de subir, d'attendre son retour, ce qui serait la condition éternelle des femmes, d'attendre que l'homme parte en mer, parte en guerre, parte ailleurs, et rentre ou ne rentre pas. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment saisie dans l'histoire qui est la mienne, finalement, puisque c'est ma mère qui décide de... C'est toujours quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une dame beaucoup plus âgée, forcément. Je la vois pas de cette façon, et je me dis qu'il y a un moment où, quand elle avait 20 ans, elle a été capable de laisser son appart, son boulot, sa famille, tout, pour prendre un avion, prendre un billet, retrouver l'homme voilà. Et je trouve que c'est un choix. Je trouve que c'est un véritable choix. Ouais. Ou alors c'est pas du tout un choix, c'est juste une pulsion de vie, sachant que si elle ne fait pas, elle allait peut-être, c'était peut-être elle qui aurait pu en mourir. Puis il y a un autre choix qui sont, il y a d'autres choix qui sont des choix bien moins intimes justement. Mais finalement. Je ne sais pas comment on peut les qualifier, notamment dans cette troisième partie du livre où on voit le jeune Oscar qui a été blessé, qui est amputé d'une jambe, on comprend ce qui lui est arrivé. Et il y a eu un moment où lui a eu un choix à faire, qui est un choix auquel le lecteur est confronté. J'ai voulu écrire pour que le lecteur puisse se poser la question de savoir ce qu'il aurait pu faire dans cette situation, c'est-à-dire pour sauver sa peau, jusqu'où on est capable d'aller. Voilà, laisser les autres, pas laisser les autres, se sauver soi, sauver les autres, sachant que si on se sauve, le rapport à la culpabilité est compliqué, le rapport à la honte, toute la palette des sentiments humains qui sont résumés parfois sur une minute. C'est-à-dire qu'il y a une minute qui va être décisive dans son existence. J'aime beaucoup ce film, je fais un grand, ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Snow Therapy. Qui est sorti il y a quelques mois. C'est un couple avec des enfants qui est dans une station de ski, je ne sais pas si c'est en France ou en Suisse, et puis une avalanche arrive, et là, réaction tout à fait pulsionnelle, est-ce qu'on sauve les siens, ou est-ce qu'on sauve les autres, ou est-ce qu'on sauve soi ? Il se trouve que l'homme va prendre la fuite. Et pour moi, je fais un lien aussi, parce que le rapport à la guerre, c'est des situations extrêmes où on ne sait pas si on aurait pris ses jambes à son cou ou si on aurait... Je pense qu'on ne peut pas le savoir. Et j'ai voulu, à un moment dans le roman, que le personnage, que le lecteur puisse, à un moment, s'arrêter et essaye de résumer rapidement ce qu'il aurait pu faire dans une situation extrême. Et je trouve que là, le choix... Je ne sais pas si on peut appeler ça un choix. Comment est-ce qu'on peut appeler cela ? Et je trouve que c'est la grande question de nous tous face à des situations qui sont des situations de danger. Tu parlais que, par rapport à la question des harkis, de dire que comment on en arrive à un moment à être avec l'armée française tout en sachant que ça ne résulte pas d'un choix pensé, assumé, voulu. C'est des concours de circonstances divers qui font que tout à coup, tu vas te trouver là parce que là, c'était peut-être plus du côté de la vie ou que c'était plus acceptable moralement ou que c'était être fidèle à des parents, à des aïeux, à des enfants, à quelqu'un qu'on aime. Et je trouve que ça, c'est magistralement intéressant dans nos existences.
Moi, c'est ce que j'ai essayé vraiment de traiter. Cette idée aussi que parfois on a des œillères au moment de faire le choix et qu'on a l'impression que c'est la seule chose possible. Et que si, avec l'humilité de la romancière qui essaye de comprendre les personnages, tu dis on ne peut pas dire moi j'aurais fait ça à ta place, etc. Finalement, les gens dans la vie, moi, renvoie tout ça dans la gueule de mes personnages, c'est-à-dire Ali a l'impression que partir en France en 62 est la seule chose qui est faisable pour lui pour sauver sa famille, et le sergent qui va voir dans la caserne à qui il demande de l'aide pour ça lui dit « mais t'aurais dû t'y prendre autrement ». T'as fait le mauvais choix. Son ami du temps de l'association des anciens combattants, qui lui a pris le parti du FLN, quand il se revoit en France 20 ans plus tard, lui dit « mais tu aurais dû rester parce que certains des harkis n'ont pas été assassinés, donc tu peux pas savoir, t'aurais pu rester et ne pas perdre ton pays. » Hamid, le fils d'Ali, va lui dire « tu aurais dû faire un choix qui était politique et prendre le parti de l'indépendance, qui tourne le dos à sa propre liberté. Et Ali a l'impression que c'est insupportable, tous ces gens pleins de certitudes. Et ensuite, Hamid va être confronté à ça aussi, c'est-à-dire que lui a l'impression que taire le passé de son père...
Ça, c'est un choix, le fait de se taire, en revanche.
Oui, mais,
c'est un vrai choix.
Mais il a l'impression que c'était la seule chose à faire, par exemple, pour protéger ses enfants. Mm. Et quand sa fille va lui dire... Mais t'as brûlé les ponts, tu m'as pas transmis l'histoire, tu m'as pas transmis l'arabe, t'as fait le choix à ma place, et c'est dégueulasse. Et en fait, il y en avait d'autres à faire. Ami lui dit, mais non, tu comprends rien, parce que justement, tu ne connais pas le racisme de la France froide que moi j'ai connu, et il n'y avait pas d'autre choix, et ses enfants ne peuvent pas l'entendre, et il se dit, mais qu'est-ce que c'est pénible, l'adolescence, en oubliant que lui-même sautait sur le dos de son père, en lui disant qu'il y avait eu d'autres choix possibles, etc. Et donc, c'est vrai que mon livre travaille sur ça, sur la différence entre les œillères, une narration omnisciente qui dit au lecteur, alors en effet, on pourrait voir qu'il y a ça, 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 mais le personnage ne le voit pas, et les autres personnages qui, eux, sont tous sûrs qu'il y avait une voix, et que c'est si eux avaient eu le même choix à faire, ils auraient pris l'option différente. Et moi je trouve ça passionnant, quoi, la manière dont ça fragmente toutes les décisions de vie. Le roman permet d'explorer ça, c'est assez génial.
Bien, ben en tout cas, je sais, je sens, je devine que cette question de l'Algérie, prise en charge, la mémoire de l'Algérie prise en charge par le roman va susciter des débats passionnants, parce que ça reste une question absolument passionnante. Je vous renvoie à la lecture des trois romans dont je vous rappelle les titres. Donc Yves Bichet, c'est Indocile aux éditions du Mercure de France, Brigitte Giroux, Un loup pour l'homme chez Flammarion, et puis Alice Zénitaire, L'art de perdre, également aux éditions Flammarion. Merci infiniment à vous trois, et bonne soirée à tout le monde.